Hélène, tu voulais revenir sur ce dossier en Argentine, le Sénat qui rejette la légalisation de l'avortement. Il y en a plusieurs qui ne savaient même pas que c'était illégal là-bas.
Ben absolument. Moi, la première, d'ailleurs, quand j'ai regardé ça. En fait, c'est pas tant que ce matin, je veux parler d'être favorable ou pas au droit à l'avortement, mais c'est simplement, un petit peu comme tu le disais, Jean-Sébastien, c'est que, d'une part, j'ai été surprise qu'en Argentine, ce ne soit pas encore le cas. Quoique, la place de la religion catholique là-bas est omniprésente. Alors, évidemment, le lobby religieux est excessivement fort. Puis on dit que dans ce cas-ci, parce que c'est une loi qui avait été votée par les députés, mais qui a été contrecarrée par le Sénat, et on dit qu'effectivement, le rôle de la religion catholique a été omniprésente dans ce dossier-là. On sait que quelqu'un, par exemple, qui se fait avorter en Argentine, ou encore quelqu'un qui aide quelqu'un d'autre à se faire avorter, peut être passible d'une peine d'emprisonnement d'à peu près 6 ans, ce qui est énorme quand même.
Donc,
c'est illégal là-bas. Puis la question que je me pose toujours, c'est qu'on soit pour ou contre, quelles sont les conséquences d'une telle décision? Il y a quand même 2 millions d'avortements en Argentine par année. Et ces 2 millions d'avortements-là sont souvent faits dans des conditions exécrables,
évidemment.
Au détriment de qui? De la jeune fille, évidemment.
Oui.
Alors, quelles sont les précautions que le gouvernement, puisqu'il a décidé, ou le Sénat a décidé de ne pas offrir de service d'avortement actuellement, quelles sont les propositions qui vont être mises sur la table pour justement aider ces jeunes filles-là? Parce que du jour au lendemain, les gens n'arrêteront pas de se faire avorter.
Non, tu ne peux pas éviter ça.
C'est ça, tu peux pas éviter ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Ta responsabilité comme État, à mon avis, c'est justement d'essayer de rassurer puis d'assurer des conditions d'hygiène. Mais manifestement, si l'avortement est illégal, c'est
ça va
juste
toujours
de dire,
se faire de façon clandestine.
Clandestine et au détriment de la santé de la femme.
Ouais.
Et c'est ce que je trouve malheureux dans cette décision-là, c'est que, comme les gens le disent, c'est que rien n'a été mis sur la table pour essayer, à tout le moins, de rendre moins dangereux ces 2 millions d'avortements-là par année. Puis, on est en 2018 et c'est surprenant qu'on en soit encore rendu là.
Oui, dans un pays qui n'est pas un pays d'Afrique ou pays...
Non, tout à fait. Il y a eu de graves problèmes économiques, mais il y a quand même plusieurs années, c'était un leader mondial. Maintenant, c'est autre chose, mais quand même.
Oui.
Tu sais, c'est un pays qui est éduqué, qui est formé... Donc, c'est dommage qu'il n'y ait aucune alternative à ce stade-ci.
Le prochain sujet, Hélène, me fait peur. Il me fait peur depuis un petit bout déjà. Premier projet pilote au Québec de véhicule autonome qui sera déployé à Candiac. Là, on n'est pas loin de chez nous. Là. Moi, je commence à angoisser.
Pourquoi ça te fait peur?
Eh bien, on dirait... Bon, je fais pas confiance facilement d'abord. Alors, à la technologie, encore moins.
En fait, moi, personnellement, j'ai très hâte que ça arrive parce que j'aime pas beaucoup conduire, notamment sur des longues distances. Alors, moi, je pense que je vais arrêter d'avoir peur puis je vais leur faire confiance.
Une femme de bateau à vapeur, Hélène. Ou de train.
Est-ce que tu fais référence à mon âge, là?
Non, mais
alors,
je parle de nostalgie, là. Non, t'es à peine... on a le même âge, Hélène. On est des amis d'enfance.
On arrête là. On s'étendra pas sur le sujet. Ben en fait, je peux comprendre là, que, comme n'importe quelle nouveauté dans une société, il y a de la résistance au changement. Mais on n'en est pas là encore. T'sais, c'est un projet pilote.
Ouais.
En Ontario, ils ont commencé à faire des projets pilotes depuis 2016. Ici, encore une fois, on traîne de la patte, même si on a la prétention de vouloir devenir un leader mondial en ce qui concerne les voitures électriques. Ça, on le sait déjà qu'on a pris beaucoup de retard. Mais aussi les voitures intelligentes, donc des voitures qui se conduiraient sans chauffeur humain, on s'entend.
Oui.
C'est vrai que ça peut paraître un peu particulier de se dire qu'un jour, il y aura peut-être des voitures qui seront en mesure de nous déplacer d'un point A au point B sans qu'on ait besoin de toucher un volant.
Mm-hmm.
Ça, c'est surprenant. Mais on en est rendu là. Tu sais, même les ordinateurs, Internet, tout ça, on aurait parlé il y a 30 ans, puis
t'aurais
dit « Oh, ça me fait peur ». Je pense que ça t'aurait fait peur aussi, mais on en est rendu là. Puis personnellement, je pense que là, on est à tester les technologies, puis tout ça va fonctionner, évidemment, dans les prochaines années. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que, tu sais, il y a eu un changement du code de la sécurité routière qui a été amendé au mois d'avril pour permettre justement ce genre de projet pilote-là, puis on l'attendait. Alors, c'est à Candiac que ça va commencer en ce qui concerne le Québec.
Et ça va être annoncé aujourd'hui. On aura plus de détails là, sur la chose en question. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une conférence de presse qui est prévue ce matin. Alors, comment ça va s'organiser, là? Moi, pourvu qu'on ne vienne pas se balader dans la rue de Sherbrooke.
Non, ça va demeurer à Candiac.
Ça va venir à un moment donné.
Ça va venir. Mais tu sais, moi, faire Sherbrooke, Montréal, ça va. T'sais, sur l'autoroute, ça va. C'est quand on commence à mettre des obstacles, là, des gens qui traversent, les traverses prétonnières, l'arrêt-stop.
Ou des travaux, parce que là, l'itinéraire peut être bouleversé. Pour vrai, s'il y a de la construction qui se fait, puis Dieu sait que.
Oui, mais ça, ça va être prévu.
Oui, bien non, ben, c'est on va tester la technologie, là, mais je ne serai pas la première demain à tester la technologie à Candiac.
Moi, j'irai avec plaisir.
Ah, ben tant mieux. Ben, il en faut.
Avec
en faut.
Plein de coussins gonflables. Non? Ouais.
C'est important, ça, quand même. Mais vous vous souvenez, il y avait, tu sais, au début des GPS, là, il y en avait des fois qui étaient un petit peu bizarres, là, qui proposaient des itinéraires facultatifs. Puis il y en a des gens, bon, c'est sûr que c'est une question de jugement aussi, tu sais, toi qui conduis, même si c'est un GPS, qui se dirigeait dans des lacs, là, où, tu sais, des fois, il y avait des ponts anciennement qui n'étaient plus là, puis le GPS a dit continue. La personne derrière le volant n'est pas plus brillante, elle continue, là. Mais non, mais c'est vrai, à un moment donné, il faut que tu aies du jugement.
C'est une histoire d'horreur, effectivement.
C'est épouvantable.
Effectivement. Mais,
OK. Je ne veux pas te faire peur, Joanne.
Non, mais. Je veux juste pas le tester, moi, en premier. Mais s'il y en a, comme Hélène, qui sont volontaires, éventuellement, je vais embarquer dans le bateau.
Je n'ai pas dit que je le ferai demain matin, mais évidemment.
Éventuellement.
Mais ça s'en vient. Mais est-ce que vous me permettez d'aborder un dernier sujet?
Ben oui, on a le temps.
Celui-là, il me fait beaucoup plus peur que la voiture intelligente. Okay. Oui. Je voudrais juste revenir un peu sur ce qui se passe actuellement entre l'Arabie saoudite et le Canada.
Oui, je peux comprendre.
Et je ne veux même pas parler des sanctions, parce que vous le savez, actuellement, il y en a plusieurs, notamment au niveau des étudiants, tout ce qui est contrat économique, etc., etc. Non, ce dont je veux parler ce matin, c'est l'absence ou le grand silence de la part des alliés naturels du Canada face à cette situation-là. Mm-hmm. L'Arabie saoudite, c'est un pays que l'on critique depuis de nombreuses années pour la gestion des droits humains, notamment, puis particulièrement envers les femmes. Dans ce cas-ci, la réaction de l'Arabie saoudite par rapport au Canada, elle est extrême. Mais leur calcul politique, c'est de se dire, on va s'attaquer à un pays avec lequel on a très peu d'accords commerciaux. Oui. Tu sais, le Canada est autonome en termes... Oui. En fait, n'achète même pas de pétrole à l'Arabie saoudite, entre autres. Puis les relations commerciales sont, à part quelques blindés, là, puis là, on a entendu parler de ce contrat-là, il n'y a pas grand-chose. Mm-hmm. Donc, c'était pas très, ni d'un côté ni de l'autre, très... dangereux de s'attaquer au Canada. Mais là où je me dis, comment se fait-il que tout le monde se tait? C'est-à-dire que c'était peut-être l'occasion rêvée pour les pays occidentaux de mettre leur poing sur la table et de dire « Hey, là, ça va faire. » Depuis des années, on le dit, depuis des années, on essaie par la bande de faire un peu la leçon et de se dire « Ce qui se passe là-bas, ça n'a aucun sens. » Puis jamais on ferait ça chez nous. Mais au contraire, c'est le grand silence, c'est le désert total. Et on laisse le Canada seul dans cette circonstance-là, alors qu'on aurait pu prendre ce prétexte-là pour dire, écoutez, les droits humains passent au-dessus des intérêts économiques. Puis la raison pour laquelle la France ou le Royaume-Uni ne disent pas un mot actuellement, c'est juste pour des raisons d'argent. Et c'est ça qui me questionne. Ça, je trouve ça beaucoup plus épeurant que n'importe quoi d'autre. Parce que je suis en train de me dire, tous nos beaux discours à l'international, que ce soit les nôtres, c'est-à-dire le discours canadien, ou ceux de nos alliés, ils n'ont pas d'importance face à une pièce.
Non, c'est un petit peu ça que ça se dit. Ah, c'est désolant.
C'est tout à fait désolant. Et ça, pour moi, ça rend un peu fragile d'abord la démocratie qui est basée justement sur les droits de l'homme puis le respect d'autrui. Ça rend ça excessivement fragile. Puis le message que ça nous envoie, c'est que oui, on va tenir ces discours-là constamment en autant que les enjeux économiques ne soient pas mis en péril. Oui,
c'est ça, tout à fait.
Alors, je trouve qu'on manque le bateau et j'ose espérer, puis là, remarque qu'il a déjà commencé à avoir à abaisser un peu son ton, mais j'aurais aimé ça que Justin Trudeau reste ferme et qu'on continue à défendre ces valeurs-là qui sont les nôtres. Mm-hmm. Mais encore faut-il se dire que nos valeurs canadiennes, ou en tout cas celles qu'on pense avoir le droit de véhiculer un peu partout, sont difficilement exportables, surtout dans un pays comme l'Arabie saoudite.
Ouais, c'est vrai que c'est un constat un peu désolant.
C'est très, très, très désolant. Ouais.
Hélène Gravel, merci.
Merci beaucoup. Bonne fin
de
semaine.
Prends bien soin de toi en fin de semaine. Repose-toi. Alors, tu seras en pleine forme lundi.
Je vais abaisser le niveau de stress. Je vais juste en garder un peu.
Ça va bien aller. On se textera en fin de semaine, Hélène. Si jamais t'es nerveux, je te ferai jouer dans Fan de musique quelques classiques relaxants. Ça va bien se passer.
Non, mais là, comme je disais, Josiane, la crainte que j'ai, parce que je pense que certains d'entre vous l'ont peut-être réalisé, c'est que je ris quand même facilement. Puis avec toi, Jean-Sébastien, là, la crainte que j'ai, c'est qu'à un moment donné, je vais aborder un sujet sérieux, tu vas dire quelque chose, puis je serai plus capable d'arrêter de rire.
Je vais être sobre dans mes commentaires.
Je vais lui parler là, en fin d'émission, puis je vais lui dire de se calmer. Là,
c'est excellent comme ça.
Et,
alors.
Ben, écoutez, je vais en profiter pour souhaiter de bonnes vacances à Martin Pelletier, puis lui dire que je vais faire tout mon possible pour tenter de c'est de grosses chaussures à remplacer pour deux semaines, mais il part pour des vacances bien méritées.
Mais c'est pour ça que ça prend deux personnes aussi pour remplacer Martin.
Ben absolument.
On parle d'un monument ici. Fait.
Ça, c'est très bien dit.
Alors, on va le retrouver d'ailleurs, Martin, qui sera là dès midi. On va lui parler en fin d'émission. Merci beaucoup, mesdames.